les infos à Washington.
Avec Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à Kinshasa, bienvenue à notre journal. Élection RDC, le groupe d'études sur le Congo, GEC, de l'Université de New York, a recommandé aujourd'hui que la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, devrait suspendre son soutien au processus électoral en République démocratique du Congo si les conditions pour des élections crédibles en fin d'année ne sont pas réunies. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait faire de la tenue d'élections crédibles la principale priorité de la MONUSCO au cours de la prochaine année, écrit le GEC dans un rapport, alors que l'ONU s'apprête à renouveler le mandat de la MONUSCO avec le vote d'une nouvelle résolution d'ici le 31 mars. En RCA, la MINUSCA, la mission de l'ONU sur place, condamne le meurtre d'un employé de l'UNICEF et de 5 autres travailleurs humanitaires. Ils ont été tués dimanche lors d'une attaque dans le nord-ouest du pays. John Lyndon.
L'attaque s'est produite alors que le groupe se rendait à Markunda, dans une zone reculée proche de la frontière tchadienne. Les nationalités des personnes tuées n'ont pas immédiatement été révélées. En août dernier, des inconnus avaient tué 6 volontaires de la Croix-Rouge dans le sud-est du pays, un mois à peine après la mort d'un autre humanitaire tué par un groupe armé à Bangassou. Nous condamnons vivement cet acte insensé contre des coopérants humanitaires qui venaient pour améliorer la vie des populations les plus vulnérables, a déclaré hier la directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, Marie-Pierre Poirier.
Violence au Mali maintenant. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne l'attaque qui a coûté la vie à 4 casques bleus bangladais hier dans le pays. Un incident survenu un jour après la mort de 6 membres des forces armées maliennes tués dans une explosion de mine. Plus de détails sur l'attaque contre les casques bleus et la mort de garde nationale malienne de la nuit de mercredi à jeudi à Gao avec Kassim Traoré, notre correspondant à Bamako.
Se rendre à Douanza n'est plus chose facile. Actuellement, le tronçon Mopti-Douanza est miné. Douanza-Boni est fatal. C'est ainsi qu'hier, un convoi de l'aménagement du contingent Bangladesh a sauté sur une mine. Le bilan provisoire indique que 4 casques bleus ont trouvé la mort suite à l'explosion d'une mine ou d'un engin explosif. 4 autres soldats de la paix ont été également grièvement blessés. Avec cette attaque, l'aménagement veut désormais renforcer son dispositif sécuritaire dans le centre du Mali, aux côtés de ses partenaires nationaux, régionaux et internationaux. À Gao, la nuit a été très mouvementée. Les jeunes étaient descendus dans les rues suite à l'assassinat d'un soldat malien devant la mosquée Kouet. Il était en poste au tribunal de Gao quand des hommes armés ont ouvert le feu sur lui. Des manifestations ont dégénéré après cet assassinat. Il y a eu 2 blessés graves qui ont été admis à l'hôpital régional de Gao. Finalement, les jeunes se sont dispersés très tard dans la nuit avant de se donner rendez-vous ce matin pour une grande marche dans la cité des Askia, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan est aujourd'hui à Dakar au Sénégal après avoir fait escale mercredi à Nouakchott en Mauritanie. Le leader turc y a annoncé une contribution de la Turquie de 5 millions de dollars pour aider à financer le G5 Sahel, la force militaire constituée par 5 pays africains pour lutter contre les groupes djihadistes actifs au Sahel. Les pays en question, rappelons-le, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
C'est la première visite d'un chef d'État turc en Mauritanie. Recep Tayyip Erdogan est arrivé hier après-midi à Nouakchott pour une visite de quelques heures. Accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires, M. Erdogan a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Abdelaziz. Le président turc a signé plusieurs accords de coopération dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, mais aussi dans les hydrocarbures et les mines. Le chef de l'État turc a quitté la Mauritanie en début de soirée pour se rendre au Sénégal, avant dernière étape d'une tournée africaine qui s'achèvera vendredi au Mali. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain. Il s'efforce également de combattre l'influence du prédicateur turc Fethullah Gulen, qui a ouvert plusieurs écoles sur le continent. Ankara l'accuse d'avoir fomenté le putsch manqué en 2016.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On reste au Sénégal, poursuite du conflit en Casamance dans le sud du pays. En cours depuis plus de 35 ans, cette lutte armée du MFDC, le mouvement des forces démocratiques de la Casamance, a fait plusieurs centaines de victimes. Mais malgré un processus de paix instable, la région espère retrouver un jour une paix durable. Le reportage de notre correspondant Sedina Abagueye, envoyé spécial à Ziguinchor.
Après les indépendances, la Casamance demeure dans une relative précarité économique et les populations se sentent marginalisées par rapport aux autres régions du Sénégal. Au début des années 80, le Casasport, club fagnon de la région sud, est lourdement sanctionné par la Fédération de football suite à des incidents lors d'une finale de Coupe nationale. Ensuite, un élève est tué par les forces de l'ordre lors d'une grève à Ziguinchor, ce qui déclenche de graves émeutes dans le sud du Sénégal. Ces événements seront instrumentalisés, comme l'affirme Noa Cissé, historien et figure emblématique en Casamance.
Pendant 3 jours ici, le pouvoir était pratiquement dans la rue, ce qui va alimenter un peu les foyers, ce qui va alimenter les regroupements pour monter véritablement les gens contre un ordre qu'on n'aime pas, contre une forme de gestion qu'on récuse et conduire à la fameuse marche du 26 décembre 1982. Ils sont allés à la gouvernance, bien entendu, et là-bas, ils ont voulu descendre le drapeau vert, jaune, rouge, frappé de l'étoile, et mettre en lieu et place le drapeau blanc.
Cette marche, réprimée dans le sang, conduit les indépendantistes du mouvement des forces démocratiques de la Casamance à prendre les armes et à rejoindre le maquis. Depuis lors, la Casamance est plongée dans une violente crise qui aura fait des centaines de victimes. Aujourd'hui, l'espoir d'une paix durable est réel grâce au changement de position de certains leaders de la rébellion, comme l'indique Ibrahim Gassama, journaliste basé en Casamance.
Pour la première fois depuis le déclenchement du conflit, on a vu quelqu'un comme Salif Sadio, jugé comme étant le plus radical des chefs de guerre, qui a accepté de ranger les armes et d'aller discuter avec l'État. Les autres également étaient dans la même dynamique. Maintenant, il y a eu un problème d'approche parce que certains se sont sentis exclus, n'est-ce pas, de ce processus, et on travaille, les acteurs travaillent aujourd'hui à les ramener dans cette dynamique et permettre aux choses d'être homogènes et d'aller à la table des négociations.
Dans le passé, des efforts de paix similaires sont restés vains malgré plusieurs périodes d'accalmie. Le journaliste Ibrahim Gassama estime que certains manquements dans le processus de paix sont imputables à l'État.
Il n'y a jamais eu de véritable continuité de l'État pour surveiller les accords de paix qui étaient signés et qui étaient souvent remis en cause. Parce que l'État, c'est une continuité, mais ce dossier lié à la gestion du processus de résolution de la crise casamançaise ou en Casamance n'a jamais fait de passation entre les présidents qui se sont succédés à la tête du pays.
Après une accalmie d'environ 5 ans, les armes résonnent de nouveau en Casamance. Le processus de paix qui est en bonne voie n'est cependant pas remis en cause. Les acteurs estimant que les récents événements ne sauraient arrêter plusieurs années d'efforts pour la pacification de la Casamance. À Ziguinchor, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
Actualité aux États-Unis maintenant, le président Donald Trump continue ses attaques contre Jeff Sessions, son ministre de la Justice. Le chef de l'exécutif américain a jugé honteux hier son choix pour diriger l'enquête sur d'éventuels abus dans les écoutes téléphoniques. Plus de détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le président Donald Trump s'est demandé pourquoi Jeff Sessions, ministre de la Justice, a instruit l'inspecteur général d'enquêter sur les possibles abus de la FISA, la Cour qui détaille les conditions dans lesquelles une personne peut être placée sur écoute. L'inspecteur général n'a-t-il pas été nommé par Obama? Pourquoi ne pas avoir recours aux juristes du ministère de la Justice? Honteux, a déclaré le locataire de la Maison-Blanche. Ancien sénateur de l'Alabama, le conservateur Jeff Sessions, soutien de Donald Trump durant sa campagne, est souvent la cible des piques du président américain. Il reproche à son ministre de la Justice de s'être récusé dans l'enquête sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine, une affaire qui empoisonne sa présidence. De son côté, M. Sessions a affirmé qu'il va continuer à accomplir son devoir, je cite, « avec honneur et intégrité ». Ce ministère va continuer à faire son travail de façon juste et impartiale, dans le respect de la loi et de la Constitution, a conclu Jeff Sessions.
Pour terminer, toujours aux États-Unis, l'administration Trump a exhorté la communauté internationale au cours d'une conférence mercredi à Washington à renforcer l'arsenal civil contre les djihadistes du groupe État islamique pour prolonger les succès militaires en Irak et en Syrie. Le gouvernement américain préconise des sanctions financières, d'abord. Ensuite, la généralisation du Passenger Name Record, un registre des données des passages aériens qui est un excellent outil contre-terroriste, selon Washington.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.